Accent d'Europe, Frédéric Lebel. My chance new girl watch made in China. We play ping pong ball made in China. Get bitch matter says pink made in China. Yeah, high brother black car made in China. She said that she didn't delay. Bonjour à tous. Quand l'Europe regarde à l'Est, vers l'Indo-Pacifique ou vers la Chine, pour garantir la liberté de circulation et de commercer en premier lieu. Mais tous les pays européens ne sont pas sur la même ligne face à Pékin, que l'on juge avec la Hongrie qui courtise au plus haut point le géant asiatique. Vaccin chinois, construction d'une ligne de chemin de fer vers la Serbie par un groupe chinois et ce projet d'une université Fudan à Budapest. Mais cette dernière idée suscite beaucoup de controverses. C'est le reportage de Florence Labruyère.
C'est au bord du Danube que le campus européen de l'université Fudan de Shanghai devrait voir le jour. Il devrait ouvrir ses portes en 2024 pour accueillir 5000 étudiants. Selon le secrétaire d'État Chaba Demeter, l'arrivée de l'une des meilleures facultés internationales va bénéficier à la Hongrie.
Cette université est la 34e meilleure université au monde. Elle a une telle capacité de recherche, une telle offre de savoir. Ça va transformer la Hongrie en un pôle de connaissances et attirer des investisseurs. Fudan coopère avec le MIT américain et avec la London School of Economics. Eh bien, les États-Unis et le Royaume-Uni n'ont pas perdu leur souveraineté pour autant. D'ailleurs, depuis que notre gouvernement est au pouvoir, la souveraineté de la Hongrie s'est renforcée.
Viktor Orban prône l'ouverture vers l'Est. Son gouvernement aide les entreprises hongroises à exporter vers la Chine. Mais selon un journal d'investigation hongrois, qui a eu accès à des documents confidentiels du gouvernement, c'est l'État hongrois qui financerait la construction du campus de Fudan, en empruntant à la Chine près d'1,5 milliard d'euros. Autrement dit, la Hongrie s'endetterait massivement pour accueillir une université chinoise privée. L'opposition appelle alors à manifester. En juin dernier, plus de 10 000 Budapestois descendent dans la rue. Ils sont d'autant plus indignés que l'université chinoise occupera un terrain qui était destiné à des logements pour étudiants hongrois. Laszlo Arva est fonctionnaire à la retraite.
Je suis contre le projet de Fudan ici à Budapest parce que je pense que c'est un projet très cher qui sera financé par les gens de la Hongrie, majoritairement par l'État hongrois. Je pense que c'est un cadeau pour les Chinois. Et pourquoi nous donnerons les cadeaux pour les Chinois?
Comme Laszlo, 80% des Budapestois sont contre Fudan. Ils ne croient pas à l'argument du gouvernement selon lequel la Hongrie bénéficiera de l'arrivée de cette prestigieuse université. Timea Szabó, députée d'opposition pour le Parti écologiste, n'en est pas convaincue non plus.
Dans le budget de l'année prochaine, le gouvernement a alloué 450 milliards de forints à tout l'enseignement supérieur. Et il a prévu de donner la même somme à une seule université chinoise. C'est insensé. De plus, Fudan est une université privée, inabordable pour la majorité des étudiants hongrois. L'inscription au master, c'est au minimum 3,5 millions de forints par an.
3,5 millions de forints, soit des frais d'inscription de 10 000 euros par an. Mais pourquoi accueillir une université aussi chère et aussi peu populaire auprès des Hongrois? Surtout, pourquoi Viktor Orban se rapproche-t-il autant de la Chine? Élément de réponse avec la députée d'opposition Timea Szabó.
Pourquoi cette stratégie d'ouverture à l'Est? Ce n'est pas parce que Orban aime la Chine. C'est tout simplement pour l'argent. Orban s'est d'abord tourné vers la Russie. Il a signé un contrat pour que Moscou rénove notre centrale nucléaire. L'argent russe a aidé le parti d'Orban à financer les élections de 2014. À long terme, je crois qu'Orban veut quitter l'Union européenne. Il a besoin de remplacer les fonds européens avec autre chose. Et nous croyons que cette autre chose lui a été promis par la Chine.
Au Parlement, Timea Szabó interpelle le Premier ministre. Votre gouvernement est corrompu et vous êtes le valet du Parti communiste chinois, lance la députée. D'autres membres de l'opposition pensent que Viktor Orban ne veut pas forcément quitter l'Union européenne, mais il souhaite montrer qu'il a d'autres amis pour faire pression sur Bruxelles. En tout cas, l'opposition profite de l'affaire Fudan pour agiter le spectre d'une sortie de l'Europe. Or, les Hongrois restant majoritairement pro-européens, l'affaire pourrait faire perdre des voix au parti d'Orban. Le secrétaire d'État Thomas Chanda tente de désamorcer la bombe Fudan.
Ce n'est encore qu'un projet. Il nous faudra 1 ou 2 ans pour le mener à bien. Quant à la réalisation et au budget, il n'y a pas encore de décision. Et contrairement à ce qui a été dit, aucune décision n'a été prise sur le financement et la construction de l'université. Nous prendrons les décisions nécessaires au deuxième semestre 2022.
Pour mettre le gouvernement face à ses responsabilités, l'opposition hongroise souhaite organiser un référendum. Le projet chinois s'annonce aussi controversé que le débat européen.
Et à l'opposé des positions hongroises, on trouve la Lituanie qui a provoqué la fureur de Pékin en acceptant l'installation d'une représentation de Taïwan à Vilnius. Taïwan, territoire démocratique que le président Xi Jinping voudrait réunifier à la Chine. Les explications de Marielle Vitureau.
L'annonce de l'ouverture d'un bureau de représentation taïwanais a eu un effet immédiat. Le rappel des ambassadeurs lituaniens et chinois dans leurs pays respectifs. Jamais cela ne s'était produit. Mais de fait, les relations entre les deux pays se détériorent depuis un certain temps déjà. En février dernier, la Lituanie a fait une sortie remarquée du format de coopération économique 17+1 qui unissait la Chine et de nombreux pays d'Europe centrale et orientale. La Lituanie pensait que la Chine investirait dans la région, mais en 10 ans, la coopération n'a rien donné, souligne le ministre lituanien des Affaires étrangères. Le ton péremptoire du partenaire chinois a fini par avoir raison de la patience lituanienne. Il y a eu aussi le refus d'équiper les aéroports avec du matériel de sécurité chinois ou de donner le feu vert à des investissements venus de Pékin dans le port de Klaipeda, l'unique port lituanien. Les téléphones portables de 3 fabricants chinois ont été récemment désignés comme comportant des risques de cybersécurité. Et en 2019, pour la première fois, le rapport annuel des services secrets cite la Chine comme une menace à la sécurité du pays. De son rapprochement avec Taïwan, la Lituanie espère des retombées économiques plus importantes que celles promises il y a 10 ans par Pékin. L'île est une destination toute trouvée pour la production agroalimentaire lituanienne. Vilnius lorgne sur les semi-conducteurs taïwanais nécessaires à son industrie des lasers. Aujourd'hui, la Lituanie sait qu'elle peut compter sur les États-Unis dans son différend avec la Chine, mais aussi sur le soutien politique de la République tchèque ou de la Slovaquie. Taipei y a ouvert il y a de nombreuses années des bureaux de représentation et dans ces deux pays, le ministre des Affaires étrangères taïwanais était présent dans la délégation d'investisseurs en tournée en octobre.
Et sur la question du climat, l'Europe et le monde ne peuvent se passer de la Chine. Grande absente du sommet sur le climat, la COP26 à Glasgow. Mais en cette période de reprise économique et de pénurie énergétique, Pékin vient d'annoncer l'augmentation de la production de charbon. C'est le reportage dans la province de Shanxi de Stéphane Lagarde.
Ça, c'est le train de la mine. Il passe tous les jours, peut-être 8 à 10 fois par jour en ce moment.
Comme les centrales thermiques, le train de la houillère de Duerping a repris du service après les inondations du mois dernier dans la province du Shanxi. Pendant que le mari de la coiffeuse est au charbon, les ciseaux s'attaquent aux mèches rebelles des enfants de mineurs de ce village de montagne du nord-est de la Chine. 60 ans que le sous-sol nourrit les hommes ici, avec des hauts et des bas.
Il n'y a plus que 10 000 personnes dans ce village et moi, cela fait 30 ans que je suis là. Dernièrement, ils ont reboisé les alentours. On dit que la mine va fermer dans quelques années. Mais pour l'instant, les prix du charbon n'arrêtent pas d'augmenter. Les mineurs débutants sont bien payés.
Relance de la production de charbon pour nourrir l'appétit des climatiseurs l'été et les radiateurs l'hiver. En juillet dernier, le planificateur d'État a ordonné aux centrales électriques chinoises d'augmenter leur stock de charbon. Un sursis pour ce mineur retraité.
Le charbon d'ici part dans tout le pays. Il alimente notamment une centrale d'une province voisine, mais ça ne va pas durer. Ils font l'électricité avec le vent, le soleil et de l'eau maintenant. Bientôt, il n'y aura plus de centrale à charbon.
La fin du charbon, pas tout de suite, dit ce guide du musée du charbon de la province. La moitié des centrales à charbon en activité se trouve en Chine aujourd'hui. Plus d'un quart de la production vient du Shanxi.
Bien sûr qu'à terme, l'utilisation du charbon va diminuer et le Shanxi veut diversifier ses industries. On peut prendre l'exemple de l'Allemagne qui sortira du charbon après 2035, mais on ne va pas tout fermer sur un claquement de doigts. La Chine aura besoin de ses mines et de ses centrales encore quelques années.
Sortir rapidement de la dépendance au charbon, c'est pourtant ce que souhaitent les spécialistes du climat et les ONG environnementales pour atteindre l'objectif du zéro carbone en 2060. La Chine devra ramener le pic de ses émissions à 2025 et non à 2030, comme fixé aujourd'hui.
L'énergie, mais aussi l'agriculture, au centre des préoccupations pour limiter la pollution et le réchauffement climatique. Parmi les cultures les plus gourmandes en engrais, en pesticides, mais aussi en eau, il faut parler du tabac. Et c'est en Espagne qu'on trouve les plus grandes plantations en Europe. À l'ouest du pays, dans la région de la Vera, 8000 hectares lui sont consacrés. Mais les agriculteurs peinent à opérer une transition écologique. En reportage dans le nord de l'Espagne, très mature de Diane Cambon.
Sergio est un jeune agriculteur de 32 ans qui a repris il y a 3 ans l'exploitation familiale au pied de la chaîne de montagnes de Gredos. Après avoir renouvelé les tracteurs et le système d'irrigation, il a envisagé un moment de cultiver du tabac plus écologique. La réalité l'a fait changer d'idée.
Le tabac écologique, c'est impossible. Ici, il y a des gens qui ont essayé, mais il y a trop de mauvaises herbes qui poussent. Et puis nous, on utilise beaucoup de produits chimiques. Avant même de semer le tabac, tu dois mettre du nématicide, un insecticide dans le sol. Mais chaque année, il y a de nouvelles attaques d'insectes et ensuite, on utilise plein d'engrais chimiques.
Avec 6 hectares de champs de tabac, Sergio est obligé de cultiver de façon intensive pour que cela soit rentable et qu'il puisse toucher les aides de l'Union européenne. Pas question donc de laisser reposer la terre une seule année.
Il existe une subvention européenne en plus de la PAC pour préserver l'environnement d'une valeur de 600 euros annuels. On te demande de prendre soin de la terre, de faire des rotations de culture, tu dois faire des analyses de l'humus. Tout ça, c'est très bien si tu as beaucoup de terrain, car tu peux te passer de cultiver une année au même endroit, mais très peu de gens peuvent le faire.
Pour Laura Garcia Pernaeco, ingénieure à la Fondation Global Nature, une institution nationale spécialisée dans la conservation de la biodiversité, la culture du tabac en tant que monoculture épuise les terres en appauvrissant les sols en nutriments.
Le gros problème avec la culture du tabac est qu'il existe une très faible rotation des cultures. En général, on plante dans le même champ durant 4 à 5 années de suite. Donc, c'est un problème car les champs sont chargés de nématicides, un insecticide avec de lourdes répercussions qui va bientôt être interdit en Espagne. Ce manque de rotation, associé au fait que ce sont des cultures sans haies, sans refuge pour la flore auxiliaire, est très nocif pour l'environnement.
Un constat que ne partage pas Ricardo Miranda, à la tête de l'organisation interprofessionnelle du tabac située à Navalmoral de la Mata, à quelques kilomètres des champs.
Chaque année, une étude sur l'impact environnemental de la culture du tabac est réalisée. Il y a très peu de cultures qui ont un tel contrôle. Il y a une évaluation et puis un classement des différents pays qui cultivent le tabac. Heureusement, l'Espagne est l'un des pays qui est toujours en tête de liste. C'est pour cela qu'on peut assurer que c'est une culture vraiment durable.
La durabilité de la culture du tabac fait rire jaune la scientifique Laura Garcia Pernaeco. Le gaspillage de l'eau pour l'arrosage est régulièrement dénoncé par les écologistes.
C'est une culture où l'important, c'est la feuille. Or, sa culture n'est pas adaptée à notre climat. Il faut un milieu tropical pour qu'elle pousse bien. Il lui faut beaucoup d'humidité. Et ici, c'est un non-sens, car la région est très sèche en été. Donc, c'est déjà un premier point négatif. Mais on pourrait améliorer certaines choses, comme arroser la nuit, par exemple, et non pas en plein après-midi, à l'heure du pic de chaleur. Ici, on arrose par aspersion et non pas au goutte à goutte. La gestion de l'eau est un grand défi qui doit être mené avec du sens commun et de la responsabilité.
Ricardo Miranda de l'Interprofessionnel du Tabac reconnaît que l'usage de l'eau est important dans cette culture, qui demande beaucoup d'humidité, mais dément tout type de gaspillage.
Oui, il faut parfois que l'on compense la basse pluviométrie et c'est en arrosant qu'on le fait. Mais heureusement, arroser ici, c'est synonyme de richesse et d'emploi. Et nous disposons de l'eau de la montagne de la Sierra de Gredos, qui est une eau très pure, sans calcaire. On la garde dans de grands bassins et on puise ensuite l'eau pour irriguer, rien de plus.
Selon une étude datant de 2019, publiée par l'Organisation mondiale de la santé, la culture du tabac appauvrit les terres et souille les nappes phréatiques, mais elle porte également préjudice à la santé des agriculteurs, notamment dans les pays en voie de développement, où des dizaines de pesticides désormais interdits en Europe sont encore utilisés. Le tabac serait la sixième industrie agricole la plus consommatrice en pesticides par surface cultivée, selon un rapport d'une agence environnementale américaine.
I wanna be a world beater. A world beater. A world beater.
Brexit, pêche, migrants, les sujets de contentieux ne manquent pas entre le Royaume-Uni et l'Europe et plus particulièrement la France. Et dans ce paysage hostile, la nouvelle ministre des Affaires étrangères britannique Liz Truss tire bien son épingle du jeu. Elle est la plus populaire du gouvernement de Boris Johnson. Son portrait est signé Carlotta Morteo.
Britain has always been at its best.
Notre pays est toujours au meilleur de lui-même quand il est ouvert vers l'extérieur, optimiste et confiant. C'est le Royaume-Uni que je veux voir, patriotique et positif. Les gens veulent se sentir fiers de leur pays. Ils en ont assez des discours déclinistes concernant notre place dans le monde. Nous sommes un grand pays, un pays moderne, libéral, qui réussit grâce à la libre entreprise.
Souriante, toujours élégante, dans ses complets aux couleurs vives, Liz Truss est du genre énergique, enthousiaste et de plus en plus médiatique. Gilles Rutter est chercheuse au think tank UK in a Changing Europe, le Royaume-Uni dans une Europe qui change.
Elle aime se mettre en avant, elle se fait beaucoup photographier et est très active sur Instagram.
Soutien de la première heure du Premier ministre, elle est l'ambassadrice du Global Britain, la stratégie post-Brexit de conquête britannique de nouveaux marchés et d'alliances renouvelées.
Elle se concentre sur la manière de maximiser les opportunités du Brexit et les relations avec l'Union européenne ne sont pas bien haut sur la liste des priorités. C'est une atlantiste proche des États-Unis et du Canada et elle défend un rapprochement avec la zone Indo-Pacifique. D'ailleurs, juste avant, en tant que ministre du Commerce, elle a sécurisé une soixantaine de contrats, notamment avec des pays asiatiques, l'Australie ou la Nouvelle-Zélande.
Son bagage idéologique n'est pas très marqué. Jamie Gascoigne est professeur de sciences politiques à la Open University.
Au fond, ce qui l'intéresse avant tout, c'est le libre-échange, déréguler le marché, baisser les taxes, réduire le rôle du gouvernement, et c'est un fond idéologique qui résonne très bien avec la base des militants conservateurs.
Fille d'un père prof de maths et d'une mère infirmière, elle devient en 2014 ministre de l'Environnement, la plus jeune femme nommée au gouvernement dans l'histoire britannique. L'occasion, pour cette femme ambitieuse de 45 ans, d'affirmer son indépendance d'esprit et son humour aussi.
J'ai grandi dans une famille de gauche où on parlait de Marx et Trotsky à table. Ma mère m'a emmenée en manifestation. J'ai fabriqué des pancartes contre Margaret Thatcher. Je n'ai pas fait du ballet, je n'ai jamais eu de cheval. Ce que j'ai appris de plus utile, c'est de me faire entendre dans une foule. Mais contrairement à d'autres qui sont restés dans le moule gauchiste, je me suis rebellée. Je suis devenue conservatrice.
Aujourd'hui, elle est la personnalité la plus populaire du Parti conservateur britannique, l'étoile montante, à qui il reste une marche à franchir, celle un jour, qui sait, de Premier ministre. Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr. Abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. À demain.